On les retrouve 45 minutes plus tard, ils parlent tous les quatre. Ils ont besoin de débriefer, ils ont passé un moment qui est un petit peu différent, et il y a un vrai truc collectif qui se passe encore plus fort à ce moment-là. Et ça se vit aussi, on a des entreprises qui viennent faire des team building ici. J'ai souvent eu en fait l'impression que ce serait pas une activité qui serait propice au team building, parce qu'un team building, souvent, ben, c'est un moment d'échange, on fait quelque chose tous ensemble, et ça peut paraître un petit peu solitaire, cette expérience. Mais en fait, il y a quelque chose de très fort, une cohésion très forte qui se passe à l'issue de l'expérience, où tout le monde a envie de débriefer, tout le monde a envie de se raconter ce qu'il a vécu, comment il l'a vécu, est-ce que tu as eu telle ou telle chose. Le fait de pouvoir se balader un peu partout, ça permet en fait de pas faire le même voyage à chaque fois. Voilà. Je sais pas si je réponds exactement à votre question, mais c'est le collectif sur ces deux formes en fait, on le voit de façon très intéressante. Oui.
Mais finalement, comme au cinéma, si vous avez un date au cinéma, ce qui est important finalement, c'est peut-être plus ce qui se passe après que le film, c'est qu'il y a un moment de débrief, parce qu'autrement, bon, on peut aller chacun voir un film, autant être chez soi si. Bon, alors non, ça c'est peut-être un autre débat, mais là, évidemment il y a l'écran, la qualité autre. Mais je dirais que ça se rapproche un petit peu du cinéma où le débrief est important. Et ce que tu disais Marie tout à l'heure dans le rôle du médiateur, finalement il est essentiel, il est partie prenante de l'expérience. Donc le en amont et ce qui se passe après, l'échange avec les personnes vont jouer un rôle essentiel dans cet aspect collectif.
On a construit un truc super, c'est un exemple qui est hyper intéressant pour parler à la fois de modèle économique et d'expérience utilisateur. Avec mon associée de Coven, Céline Tricard, qui est une réalisatrice et une productrice française qui vit aux États-Unis, on a fait une expérience qui, juste avant la création de Coven, qui s'appelait Fight Back. Fight Back, c'est une appli de réalité virtuelle qui vous apprend quelques gestes de self-defense. Sauf que c'est à l'intérieur d'un univers complètement cosmique. Que vous êtes une étoile, vous devez libérer d'autres étoiles, etc. En fait, ce projet, cette expérience, a à la fois donné le jeu que nous avons finalement construit pour la plateforme Meta qui s'appelle Masters of Light, qu'on a transformé vraiment comme un jeu purement commercial, mais aussi des ateliers de self-defense où on utilise plutôt l'application comme élément de découverte de la self-defense. Et ce qu'on arrive à faire, c'est non seulement que les gens se parlent après, mais surtout qu'ils se donnent du courage avant. Et on a utilisé, enfin, on a montré le projet dans deux endroits qui sont assez passionnants, qui sont deux facs, là à l'université de Lille et bientôt là en Bretagne. On accueille 6 personnes en même temps. On leur fait faire l'expérience et si on sent qu'il y a la moindre résistance, on peut avoir encore une fois la souplesse de se dire, il y en a un qui va tester, les autres regardent et ensuite ils vont rentrer à l'intérieur de l'expérience. Ça, c'est totalement faisable. Et sur des questions comme la self-defense et les violences faites aux femmes et ce type de contenu-là qui peuvent appeler des réactions très très fortes, on arrive à être totalement adaptable. Et l'autre cas de figure dans lequel on l'a mis, et moi il est aussi intergénérationnel, rationnel, c'est à l'intérieur d'une microfolie. Les microfolies sont des entités du ministère de la Culture qui vont à des endroits où la culture va pas. C'est un petit peu le projet, si je fais très court. On l'a montré dans une microfolie où c'est un café associatif avec des mamans qui sont venues tester Fight Back. Et c'est vraiment des mamans où en fait le profil est tout sauf celui que vous voyez normalement quand on parle de réalité virtuelle. Et le truc qui est très beau, c'est qu'elles ont testé ça ensemble. On a fait tout un après-midi d'atelier. On a accueilli plusieurs groupes et que la première chose qu'elles ont fait le deuxième jour, on montrait l'expérience le mercredi, elles l'ont vu le mercredi, le samedi elles sont revenues avec leurs enfants tellement contentes d'avoir pu expérimenter quelque chose là où on ne les attendait pas. Donc le avant, il est tout aussi important que le après, c'est vaincre les appréhensions qu'on peut avoir vis-à-vis de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée vis-à-vis de la techno et ensuite pouvoir le partager. Et ça, c'est assez magnifique.
Il y a une question, je
Oui.
crois, et puis Anaïs.
Je m'interrogeais sur finalement, enfin sur ce que vous envisagiez autour de cette interaction entre personnes d'un groupe qui visitent une expérience comme celle-là. On sent bien qu'aujourd'hui, c'est quand même encore un peu. Alors évidemment, ça dépend du casque qu'on a, mais les casques qu'on a ici, on voit bien que c'est encore un peu, je sais pas comment dire, balourd, quoi. C'est-à-dire que on aimerait bien échanger éventuellement, comme vous l'avez dit, etc. Donc je me disais, est-ce que vous avez des pistes pour enrichir l'expérience d'échange pendant la visite? Ça, c'était la première question. La deuxième, sur les bibliothèques, j'ai pas bien compris s'il fallait des casques ou pas, ou si avec la seule tablette. Mais alors du coup, à quoi servent les repères? J'ai du mal avec les repères ici aussi, je sais pas très bien à quoi ils servent. Si vous pouvez nous éclairer sur les repères, ça serait intéressant. Et je me demandais aussi, est-ce que vous avez des retours, des enquêtes sur le public dans ces expériences-là? Est-ce que vous avez fait tous des enquêtes spécifiques?
Donc trois questions. Un sur la techno, on va revenir avec un peu de pédagogie sur les marqueurs, les QR codes, etc. Les enquêtes, qui étaient aussi un peu le sens de ma question, savoir comment ça évolue, la réception aussi des publics. Et puis l'autre, en complément, moi je me permets, parce que j'allais me faire l'avocat du diable en disant l'enfer c'est aussi les autres. Le cinéma, on peut être immergé, mais en même temps, s'il y a trop de bruit, trop de pop-corn, moi je suis très sensible. Alors je fais de la sociologie de comptoir en parlant de moi, et je suis sociologue de formation pourtant, mais c'est des choses qui vont me faire sortir du film parce que ça parle à côté, etc. Quand il y a trop de monde, je sais pas comment vous réguler. Je sais qu'à Notre-Dame, moi j'entendais des gens faire chut tout le temps parce qu'en fait il y avait trop de touristes ou de Français, pas de touristes, je sais pas. Mais je pensais plutôt à des touristes étrangers qui parlaient entre eux et qui s'éclataient, mais du coup ça faisait beaucoup de bruit. Et c'était un peu chiant. Donc je sais pas s'il y a par exemple au niveau sonore des choses qui viennent, ou même, et je m'arrête de compléter parce que mon complément est très long, mais est-ce qu'on sera en mesure demain de voir les gens rêver de beaucoup plus loin? Parce que des fois ça vient vite et on se cogne, etc. Donc il y avait trois points: ces évolutions techno peut-être du point de vue immersif, les enquêtes publiques, et puis j'ai oublié le troisième à force de trop parler. Ah si, et la bibliothèque.
Si tu veux, je peux prendre du coup le confort et expliquer ces marqueurs rapidement. Donc le confort, nous aussi on fait du chute ici. Ce qu'on a ajouté, on a fait imprimer en fait en 3D, parce que le modèle n'existe pas commercialement. Vous avez tous vu, vous avez des air covers, en fait des petits caches au-dessus de l'oreille. Ça permet du coup en fait d'isoler un peu plus du son. Donc ça permet, on l'avait pas au début, ça permet d'éviter justement ces désagréments d'enfants trop bruyants par exemple, ou de touristes, comme tu dis, mais il n'y a pas que les touristes.
Non, c'est un peu réducteur.
Donc on fait du chute aussi. C'est pas agréable à faire, c'est jamais agréable quand on a un visiteur d'entendre ça, mais ça permet juste de rappeler qu'on est en immersion et que tout le monde a envie de la vivre pleinement. Globalement, ça se passe bien. Le fait aussi de limiter 90 personnes au maximum dans cette salle, ça évite que ça soit trop compliqué, qu'il y ait trop de gens qui traversent votre chemin. Et l'autre chose qu'on met en place, la technologie qui nous est laissée, elle permet en fait de dispatcher correctement dans la salle les visiteurs avec des chemins en fait de parcours qui sont différents. On essaie d'optimiser chaque centimètre carré, donc ça permet d'être loin les uns des autres un maximum. Ça, du coup, c'est pour le confort. Pour ce qui est des marqueurs, à quoi ça sert tout ça, en fait? Tous ces marqueurs que vous voyez au mur, qu'on appelle ça des marqueurs, en fait, c'est ni plus ni moins que des stickers. Pas de technologie particulière, hein, ce sont des autocollants, des gros autocollants. Ils sont tous uniques. Il n'y en a pas un qui est exactement pareil que l'autre. Et en fait, à quoi ça sert? Dès qu'on a construit cette salle, on les a collés ensuite, une fois que tout était prêt, on les a collés au mur et au plafond et au sol. Et ensuite, il y a une machine qui est passée, qui a scanné tout l'espace, et grâce en fait à l'unicité de chacun de ces marqueurs, elle permet en fait, vulgairement, elle permet au casque de comprendre exactement dans la map virtuelle où il se trouve. C'est ça qui permet en fait de faire ce qu'on appelle le tracking, et qui permet en fait, dès que vous baladez, de vous identifier les uns les autres et d'éviter que vous rentriez dedans. Voilà. Parce que c'est beau. Voilà. En fait, si vous voulez, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais la technologie, elle a besoin en fait de se repérer en identifiant des angles. Je pense, Alexandre, tu sauras peut-être mieux expliquer que moi, mais elle a besoin d'identifier des angles. Alors là, aujourd'hui, c'est ses motifs, parce que l'entreprise qui les a créés, c'est sa marque de fabrique, mais ça pourrait être plein d'autres choses. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a différentes couleurs. Je ne sais pas si tu veux dire un truc là-dessus, Alexandre.
Non, juste reprendre pour au niveau technologique. Effectivement, aujourd'hui, on est obligé d'avoir ce type de motifs qui sont tous différents pour pouvoir se repérer dans l'espace. Mais on sait qu'à l'heure actuelle, et ça va revenir aussi à la question d'interaction avec les derniers casques qui sont sortis, principalement celui d'Apple, comme vous avez dû voir, il y a ce qu'on appelle la réalité mixte, c'est-à-dire qu'on voit aussi ce qui se passe en dehors du monde virtuel, et donc ça recrée du lien. Ça permet de plus être enfermé dans un casque, ce qui a beaucoup d'avantages, hein, pour apprendre, pour pouvoir découvrir, pour pouvoir vivre une expérience. C'est mieux d'être totalement immergé. Mais bientôt.